L'émission
Radio
Active.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Radioactive sur Silab. C'est notre première émission de l'année, on est ravis d'être de retour avec une toute nouvelle équipe. Pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas, notre émission existe depuis 4 ans maintenant. Elle est née de l'initiative de l'association étudiante Arvez, qui est une association qui défend et qui sensibilise à l'environnement. Dans notre émission, on traite de sujets liés à l'environnement, à l'écologie politique, et on essaye de mettre en avant les initiatives et les alternatives qui existent au niveau local, donc dans la région de Rennes. Donc aujourd'hui, sur le plateau, comme je disais, beaucoup de nouveaux membres. On a Sophie.
Bonjour.
Bonjour. On a Marie.
Salut, salut.
Et on a Samuel.
Salut.
C'est pour ça que j'ai bugué, c'est parce que t'es pas un nouveau membre, toi, je voulais commencer par toi. On a Samuel, on a aussi Samuel qu'on appellera Zeus, pour pas confondre, parce qu'il y a un deuxième Samuel, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et à la technique, aujourd'hui, on a Ilias. Bonjour Ilias.
Salut.
Et il y a Zaza qui est venue en renfort pour aider Ilias pour la première fois. Et nous avons aussi une invitée qui s'appelle Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Donc on va te présenter un petit peu après, on va expliquer pourquoi tu es là et de quoi tu vas nous parler. Mais d'abord, on va lancer un zapping concocté par Samuel alias Zeus, qui n'est pas là aujourd'hui. Ce zapping est censé vous faire deviner le thème du jour.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement.
Politique et industrie. D'ailleurs, c'est Étienne d'Avignon, vice-président de la Commission européenne de 81 à 85, qui suggéra au patron de Volvo l'idée de créer un consortium de grands dirigeants au début des années 80. Résultat, dès 1983, 17 dirigeants de multinationales créent l'ERT, la table ronde des industriels européens.
C'est un grand jour pour les chasseurs et leur lobbyiste, Thierry Coste.
S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous installer ?
Les candidats à la présidentielle vont défiler à la tribune.
On va pouvoir montrer que tuer Bambi et sa mère et sa sœur, c'est pas nécessairement gênant, quoi. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai dérapé, bien entendu.
Qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner. Louis XI.
Ils ont caché que la cigarette était dangereuse pour la santé. Ils ont acheté des scientifiques pour maintenir le doute en permanence.
Les pouvoirs publics ne découvrent les dangers du tabac qu'en 1964. 10 ans de gagnés, 8 000 milliards de cigarettes vendues et 8 millions de morts supplémentaires. Autre astuce pour lutter contre ces morts qui plombent le business, recruter les fumeurs dès leur plus jeune âge, histoire de rentabiliser la dépendance.
Exercer sans le moindre contrôle. Ce n'est qu'avec la loi Sapin 2, datant de 2016, que l'exigence de transparence a enfin progressé en France. La loi a ainsi créé un répertoire numérique unique sur lequel les lobbies doivent désormais s'inscrire et fournir des informations sur leurs activités, leur budget et leur personnel. Est-ce suffisant ?
Bon, c'est les bons lobbies. Et puis, il y a les mauvais lobbies, qui sont là donc pour prolonger le plus longtemps possible leur bon droit à engranger un maximum de tunasses, hein, malgré le cri d'alarme poussé l'année dernière par 15 000 scientifiques sur l'état de la planète. Parce qu'eux, ils vont dire « Oui, mais on va quand même continuer de faire des réunions avec des comités, parce que nous, on a trouvé un scientifique qui pense que c'est pas dangereux, le glyphosate. » Alors, on dit « C'est qui ?»« Ben, c'est Jacques. » C'est Jacques le scientifique. Voilà, et bon, il est très bon en biolo. Hein, voilà,
Jacques a dit.
Le 19 septembre dernier, le site Euractiv révélait un mémo interne de Business France, le lobby patronal dirigé par ce bon vieux Gattaz. Ce mémo y distillait les éléments de langage à adopter pour faire en sorte que les objectifs climatiques ne finissent pas par se transformer en lois contraignantes pour les industriels. Il y est conseillé de s'opposer à une nouvelle hausse des ambitions en utilisant les arguments habituels. Il faut donc dire qu'on ne peut rien faire en Europe tant que les autres pays ne font rien, donc autant ne rien faire. Si le sujet devient pressant, les patrons comptent gagner du temps en demandant toujours plus d'études d'un autre.
Continuer à se battre.
Et ce dont on peut être sûr, pardon, c'est qu'on a des alliés en fait aussi dans les assemblées. Là, Joël Labbé, le sénateur avec lequel tu collaborais, tu nous as beaucoup aidé justement dans la loi biodiversité sur notre amendement sur les semences. Ça a été un magnifique allié parce que grâce à lui, on a pu faire déposer nos amendements et il a fait tout ce travail en fait de plaidoirie ensuite dans l'Assemblée en reprenant nos arguments pour le faire connaître aux autres sénateurs à ce moment-là. Donc on dispose aussi d'alliés quand même au Sénat et à l'Assemblée, même si il n'y en a pas énormément, il y en a quelques.
Je pense que vous l'avez compris, le thème du jour, ça sera les techniques de lobbying, pardon. On va parler du lobbying, de ce que ça signifie, s'il y a des bons, des mauvais lobbies, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur méthode, comment on peut lutter contre les lobbies économiques qui ne pensent pas vraiment à l'intérêt commun pour la plupart. Donc pour cette émission, on a une invitée, Morgane, qui est membre du collectif I Boycott. C'est comme ça qu'on prononce,
I Boycott. C'est comme ça, on a le choix, mais c'est
d'accord.
Comme ça.
Donc votre mouvement se définit comme un groupe de lobbying bienveillant, c'est ça ?
C'est ça, c'est une association du coup qui a une plateforme de lobbying, on en parlera sûrement plus tard. Et...
D'accord. Bah, tu peux présenter rapidement, expliquer aussi c'est quoi ton rôle maintenant et puis on développera ensuite.
Ok, donc I Boycott, c'est une asso qui a été fondée en 2015 et qui a une plateforme du coup où on peut déposer des campagnes de lobbying en ligne. C'est vraiment un mouvement citoyen co-construit par les citoyens et moi je suis bénévole depuis assez récemment. J'ai participé à quelques événements, notamment le lancement de l'application en septembre.
D'accord, ok. Bon, bah, on reviendra plus tard. Pour l'instant, pour illustrer un peu l'influence des lobbies économiques au niveau local, Sophie et Elias sont allés interviewer deux membres du conseil municipal de Rennes, c'est ça, Sophie ?
Oui, c'est ça. Donc, on y allait la semaine dernière. Et donc, on vous a concocté un petit résumé des deux interviews qu'on a faites. Et si ça vous intéresse, ces deux interviews seront disponibles sur le podcast de l'émission Radioactive, sur le site de SILAB.
Exactement. Bonne écoute à vous.
Mathieu Theurier, je suis conseiller municipal de Rennes, coprésident du groupe des élus écologistes. Et je suis vice-président de Rennes Métropole, en charge de l'économie sociale et solidaire et des éco-activités.
Charlotte Marchandis-Franquet, adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la santé et à l'environnement. Je suis également présidente d'un réseau national, le réseau des villes santé de l'OMS, qui regroupe 90 villes qui travaillent en France au niveau national et également au niveau européen.
On va parler des lobbies. Comment est-ce que vous, en tant qu'élu, vous ressentez cette pression, cette influence de la part des lobbies ?
Alors, la question des lobbies, c'est une question qui se pose beaucoup à l'échelle du Parlement européen et du Parlement français. Au Parlement européen, on a des lobbies qui ont pignon sur rue, ils sont organisés. Cette organisation, elle permet aussi une régulation. C'est-à-dire que les parlementaires européens, ils savent qui ils ont en face d'eux et quels sont les groupes de pression et leurs revendications. La France, au niveau national, n'a pas fait ce choix-là. Et pourtant, les lobbies sont extrêmement présents au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat. Et là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus floues de mon point de vue, avec effectivement, ça a été une des causes de la démission de Nicolas Hulot, cette présence permanente de certains lobbyistes qui avancent masqués, mais qui en même temps sont dans toutes les réunions institutionnelles. On a vu aussi... et de notre point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Avec le dernier remaniement ministériel, une présence d'anciens grands responsables de grandes entreprises ou même de lobbyistes eux-mêmes.
L'ancien responsable de communication de Danone, par exemple.
Par exemple, mais avant ça, on avait une responsable de Veolia aussi comme secrétaire d'État à la transition écologique. Et il faut rappeler que Édouard Philippe est lui-même aussi issu du groupe Areva. Et on voit là, avec l'arrivée du président Emmanuel Macron, en fait, des représentants de certains intérêts arriver carrément sur des ministères, quoi. Voilà. Donc là, les choses, elles sont... Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair, quoi. Mais par contre, on voit qu'il y a une collusion très, très forte entre certains groupes d'intérêt et puis le gouvernement actuel.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir l'ex-conseiller de communication de Danone affilié au ministère de l'écologie de François de Régy ?
J'ai envie de vous dire, ça me fait beaucoup moins mal que de savoir qu'une des conseillères à l'Élysée est l'ancienne directrice de Vin et Société, le lobby du vin. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas assez clair sur l'importance d'avoir d'autres pouvoirs que les multinationales. Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui n'est pas ancré sur la réalité de notre pays. Et je pense vraiment que les gens ont envie qu'on agisse pour l'écologie, pour le climat, et pas que les bobos, comme on a tendance à dire. C'est quelque chose qui transcende les classes, qui est quelque chose qui touche tout le monde et à tous les niveaux de la société, au niveau parisien comme au niveau des provinces, au niveau des dom-toms, au niveau des classes les plus vulnérables ou pas. Et l'enjeu, enfin, j'ai l'impression que le message est finalement Hulot est parti, la porte est ouverte. Je trouve ça assez dramatique.
Alors est-ce que ça signifie finalement qu'on ne peut pas se battre contre les lobbies au niveau local ?
Moi au contraire, je suis Ça fait longtemps que les écologistes en sont convaincus. Moi, je le vois très concrètement dans le cadre de mon mandat. C'est au niveau local qu'on fait bouger les choses aujourd'hui. On voit le niveau national, il est complètement grippé. Moi, je crois énormément à l'articulation entre le niveau européen et le local. Et pour moi, l'échelle nationale, plus ça va, moins elle a de sens, plus elle est un frein systématique aux politiques de transition écologique et sociale, plus qu'autre chose. Au niveau local, on est dans des choses très concrètes. Et par ces choses très concrètes, on détricote aussi les coupes de pression. Je vous prends un exemple récent. On est en train d'installer, on a de plus en plus de projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des écoles, des bâtiments publics, etc. Et ces panneaux, ils ont vocation à être porté aussi par des sociétés coopératives d'investissement citoyen. Quand on fait ça, très concrètement, on crée des alternatives aussi à ce qu'est EDF, Areva, etc. Alors c'est micro, mais vous multipliez ça par tous les territoires, toutes les métropoles, toutes les régions de France, à la fin ça pèse, quoi. Voilà, donc disons qu'on est peut-être dans un affrontement moins face à face, on fait les choses, et en faisant les choses, en fait, on crée des alternatives justement à ces grands groupes et à ces lobbies-là.
J'aimerais votre avis, en tant qu'experte internationale en santé publique, j'aimerais vous parler des ODD, des Objectifs de Développement Durable. C'est un très beau projet, parce que les lobbies finalement n'ont pas réussi leur coup en énonçant tellement de choses aussi variées, aussi contradictoires qu'elles sont, et puis au final on se retrouve avec un plan d'action assez faible et avec un moyen de vérifier si vraiment les États suivent ces objectifs-là, s'il y a un contrôle derrière, s'il n'y a pas eu un contre-pouvoir pour vraiment dire on s'est regroupé, on a énoncé des choses, mais finalement derrière on fait rien, on reste assez vague.
Je crois fondamentalement aux ODD. Autant les objectifs du millénaire, il y avait quand même des problèmes, autant là, ça se décline. On peut à chaque fois, ils sont tous en lien, on peut mettre n'importe quel ODD au centre et voir le lien avec le reste des ODD. C'est un outil de travail formidable, sauf que il est quand même très peu compris, très peu connu. Enfin, moi, je ne sais pas s'il y a des sondages parmi vos auditeurs qui connaissent les ODD. Rien que l'acronyme. Moi, j'ai contribué à un travail sur l'appropriation par les acteurs français des ODD. Globalement, les gens ne savent pas ce que c'est, particulièrement d'ailleurs dans les pays européens. Je pense que c'est plus connu en Afrique, c'est connu, mais c'est aussi un levier de financement. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a quelque chose. Mais on a tout dit, enfin, on commence par zéro pauvreté. C'est pas un boulot des lobbies, ça. C'est un vrai objectif, humanisme. Moi, je continue à croire que les Nations Unies, quelqu'un a dit, c'est la meilleure des moins bonnes idées qu'on ait eues. Mais je continue à croire, je suis extrêmement ému à chaque fois que je vais dans un organisme des Nations Unies avec cette espèce de rêve, avec tous ces drapeaux, de dire bah, malgré tout, on va essayer de bosser ensemble. Et on va infiltrer et peu à peu commencer à faire changer les choses. Alors ça marche de façon limitée, mais je pense que ça serait pire sans. Après, si on arrive à s'emparer, s'il y a des gens avec de la vraie volonté, avec aussi des outils de décision politique, qui arrivent à s'emparer de ça et à dire non, attendez, nous, en tant que pays, on a signé les ODD. Ça veut dire que là, sur la pauvreté, il faut vraiment qu'on y aille et qu'il n'y a pas le choix, pas de fin. C'est le deuxième objectif du développement durable. À Rennes, on a des gens, des étudiants à Rennes 2 qui ont faim. On sait ça, c'est scandaleux, c'est dramatique. Donc, on dit, ben, on s'en empare, mais de façon très forte, très politique. Mais pour que ça soit emparé politiquement, il faut former les politiques, il faut qu'ils sachent que ça existe. Et c'est là où on a besoin des marches pour le climat. C'est là où on a besoin de la société civile qui interpelle, qui dit, attendez, pas de fin. C'est là où aussi on a besoin d'observation, encore une fois. Si on n'a pas les données, si on n'avait pas l'Observatoire de la santé des Rennais qu'on a créé avec les universités de Rennes 1 et Rennes 2, on ne saurait pas ça. Qu'il y a des étudiants qui ont faim. Et donc, on ne pourrait pas essayer de mettre en place des solutions à travers nos cantines, à travers du lien. Mais c'est la façon dont on s'en sert. C'est un cadre international. Moi, je suis assez cynique sur les lobbies. Je pense qu'ils n'ont même pas trop besoin de s'occuper de tout ça parce qu'ils ont la porte ouverte dans beaucoup de lieux, parce qu'on a énormément d'élus qui ne sont pas formés à ça, qui acceptent de déjeuner avec eux sans problème. On a des cadres du ministère de la Santé, alors je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelques années, qui petit déjeuner avec des industriels du tabac sans problème. Ça va, c'est 74 000 morts par an en France. C'est un crash d'Airbus par jour. Enfin, il faut juste visualiser le truc. Ça tue un fumeur sur deux. Et il y a des gens du ministère de la Santé qui déjeunaient avec les industriels du tabac. Et c'est même pas... Ils n'étaient même pas payés, c'est un petit déjeuner. C'est juste qu'il y a une habitude. Il y a une habitude. Oh, ça va, c'est bon, quoi. Non, ça va pas. Et il y a une vraie radicalité à avoir. Moi, je sais que je deviens de plus en plus radicale sur plein de niveaux, sur la transparence, sur... Moi, de plus en plus, je serai militante d'un mandat unique. Plein de gens qui vont dire, mais non, mais tu te rends pas compte. 6 ans, et on arrête. Et comme ça, on n'est pas en train de chercher une réélection, et comme ça, on retourne dans le monde du travail.
On arrive à la fin. Auriez-vous un conseil à donner aux jeunes générations à venir? Une bouteille à la mer.
C'est une lourde responsabilité. Non, mais simplement de dire que voilà, le monde est à vous, quoi. Donc, il est à vous, il est ce qu'il est, et ce dont je suis certain, c'est qu'il sera ce que vous en ferez. Voilà. Donc, à nous, si on est convaincu effectivement que la transition écologique, elle est inévitable et qu'elle peut se faire dans un climat apaisé, collectif, et qu'on peut éviter effectivement des ruptures, la brutalité aussi, et les crises qui peuvent arriver parce qu'on va avoir des changements très rapides, et ben alors on se retrousse les manches et puis on y va, quoi.
Un conseil aux jeunes générations, mon Dieu. Alors d'abord, je me sens très vieille, du coup. Engagez-vous, qu'il disait. Mais croyez que c'est possible. En fait, c'est comment ne surtout pas se laisser aller au défaitisme. Ah, c'est pas possible, on peut rien changer. Si, bien sûr, c'est vous qui allez pouvoir changer les choses. Et d'une façon que nous, les vieux, on peut même pas le penser. Donc, c'est vous la solution.
Merci.
Je vais vous parler d'une belle initiative prise par des chefs d'établissements scolaires. Ils ont convié le lobby de la viande dans leurs écoles primaires pour faire ce qu'on pourrait appeler une promotion, une opération barbac. moi, je dis chapeau. Alors, avec des slogans, je vous jure que j'invente rien. Par exemple, il y a « Avec le bœuf, c'est la teuf ». Voilà. Ou il y a aussi « Parce que je le vaux bien ». Vaux.
Oh.
L'émission radio. Active.
Donc pour rappel, les interviews donc de Mathieu Theurier, pardon, coprésident du groupe écologiste à la mairie de Rennes et vice-président au conseil métropolitain, et de Charlotte Marchandise-Franquet, donc maire adjointe à la ville de Rennes, seront disponibles dans leur intégralité sur le podcast de l'émission Radioactive.
Merci. Merci pour toutes ces questions hyper intéressantes et pertinentes. La virgule, c'était Guillaume Meurice, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Du coup, ça vous inspire quoi, un peu, ce qui a été dit par Charlotte Marchandise et Mathieu Theurier? Ça fout un peu la pression de nous. Bah, du coup, là, on est tous des jeunes. ça vous inspire quoi? Ça vous met pas trop la pression de savoir qu'on est les prochaines générations à devoir changer les choses, comme ils disent?
Je trouve qu'ils n'étaient pas si défaitistes que ça. Ils disent quand même qu'on peut agir au niveau local, et je suis assez d'accord avec cette idée. Il y a énormément d'associations qui agissent au niveau local. Et après, à plus grande échelle, il y a des outils qui vont se développer, qui sont en train de se développer sur des pratiques, des pratiques citoyennes, en fait, pour faire face justement aux lobbies. Il y en a une, notamment un collectif de lobbyistes citoyens, en fait, qui veut mettre en rapport tous ces consommateurs qui veulent s'engager et qui veulent s'imposer face aux lobbies. Et du coup, le but, c'est de créer un peu des groupes de réflexion sur certaines thématiques, et surtout d'avoir une base de données de tous les élus, pour que les gens puissent faire pression directement et faire passer des amendements.
Ouais, moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, et ce qui me pose un peu question, c'est comment toutes ces initiatives-là, elles peuvent être mises en avant. Enfin, je me dis, voilà, je suis citoyen, mais j'y connais pas forcément grand-chose. En plus, les lobbies, c'est vraiment ce truc de faire en sorte que tu comprennes rien. Et c'est fait pour que tu puisses pas te repérer et pas savoir comment faire pour agir. Comment toi, en tant que citoyen, tu sais qu'il y a telle ou telle possibilité d'agir à l'inverse et de faire pression, justement, dans un sens contraire? Par exemple, le lobby citoyen, je sais pas comment vous mettez ça en avant, comment vous faites en sorte que les gens puissent...
Là, je pense qu'avec le mouvement de la marche pour le climat, ça, c'est en train de prendre quand même pas mal d'ampleur. Les gens savent qu'ils peuvent avoir accès à l'information. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes Facebook qui essayent de mettre en avant toutes ces initiatives. Après, c'est vrai que c'est difficile de toucher le large public. Il y a des gens qui ne se préoccupent pas du tout de ces problématiques-là. Mais on a quand même un accès à l'information et il faut sensibiliser dans les écoles, dans les universités et au grand public au maximum.
Ouais. Puis l'application, enfin le système application, je trouve que c'est vraiment quelque chose de cool.
Oui, c'est assez ludique.
Ouais.
Après, c'est une question de se donner les moyens aussi, effectivement. Est-ce que la municipalité se donne les moyens ? Est-ce que au niveau national, on se donne les moyens de communiquer sur ce genre d'initiative ? Enfin, je sais qu'à Rennes, on en a parlé du coup avec Charlotte Marchandis, surtout dans son interview, mais il y a des civic tech qui ont été développés, donc il y a le Wiki Rennes, il y a la Fabrique Citoyenne. Mais ça, voilà, est-ce que les Rennais sont au courant ? Est-ce que, et est-ce que effectivement la mairie se donne les moyens de communiquer là-dessus ? Ça, c'est une grande question.
Et puis voilà, ça nous fait toujours un peu de motivation supplémentaire. Et c'est vrai qu'avoir un point de vue des élus à l'intérieur, on ne sait jamais comment ça marche. On a beau critiquer la politique, leur façon d'agir. Et là, bah, d'avoir finalement ressentir ce qu'eux, ils ressentent, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur toutes ces thématiques-là, comment lutter, comment est-ce qu'ils vivent leur carrière politique. Et si nous, ça peut nous inspirer un peu plus de motivation pour combattre et pour y croire encore un peu plus, c'est toujours ça de prix, hein.
Et vous êtes d'accord avec ce qui ressort un peu du reportage, c'est que le national et l'international est grippé. On l'a vu avec le glyphosate qui n'a pas été abandonné en France. Est-ce que vous pensez que du coup il n'y a que le local en fait comme solution et que c'est impossible d'agir au niveau national et international, ou est-ce que par exemple iBoycott, tu penses que ça peut être efficace au niveau national?
Au niveau national, oui, parce que du coup, quand il y a une victoire d'une campagne de boycott, ça touche directement tous les citoyens, voire même en dehors des frontières, puisque les entreprises s'engagent à avoir une démarche plus éthique dans leur production. Donc oui, c'est une des solutions. Et puis en plus, on a eu la preuve que pour avoir des victoires, il n'y avait pas besoin qu'on soit des centaines de milliers. Il y a Petit Navire qui a notamment décidé d'avoir une démarche de pêche plus éthique avec seulement 18 000 personnes qui ont boycotté. Et je pense que les entreprises aujourd'hui, elles ont tellement peur de leur image de marque qu'elles sont prêtes à faire des efforts assez rapidement. Après, il faut s'assurer que derrière, c'est vraiment mis en œuvre. C'est pour ça que Greenpeace travaille notamment avec Petit Navire pour être sûr que ce qu'ils ont annoncé va vraiment être fait.
D'accord. Il y a d'autres exemples de victoires comme ça, d'avancées ?
Après, pour le coup, il y a des victoires plutôt au niveau local. Par exemple, le cirque Pinder a été soutenu par Oasis et Jouet Club, et Pinder a été critiqué pour le fait qu'il y avait de la maltraitance sur les animaux, et du coup Oasis et Jouet Club ont retiré leur soutien. Il y a 6 victoires que vous pouvez retrouver sur le site, et là il y a une trentaine de campagnes en ligne en ce moment, des grosses campagnes contre Coca-Cola. Donc là c'est sûr que c'est un peu plus difficile de faire plier des grands groupes, mais avec le cash investigation sur le plastique qui est sorti, les marches pour le climat, je pense que les choses vont commencer à bouger.
Et tu peux nous rappeler les marches pour le climat, c'est quoi exactement?
Les marches pour le climat, ça a été initié du coup en septembre. Il y en a une par mois. Ça a été initié par un citoyen et ça a été accompagné par plusieurs associations, notamment Alternativa, l'NCV, 350.org. Et du coup, le but, c'est de réunir les citoyens une fois par mois pour marcher ensemble, pour dénoncer le changement climatique et l'inaction politique. Et c'est en train de prendre pas mal d'ampleur. Il y en a déjà eu 2 quand on était organisé. La troisième est déjà prévue. Et ça se fait aussi bien au niveau local. Après, il y a les grandes marches à Paris, mais à Rennes, je crois qu'il y a quand même eu 3 000 ou 5 000 personnes qui ont participé.
Ouais, il y avait pas mal de monde. Puis c'était cool. Enfin, franchement, tous les gens se sont réunis à la fin sur le mail. Ils ont discuté, ils ont genre évoqué leur point de vue, et c'était vraiment très éclectique. Mais justement, ça faisait du bien. C'était très diversifié et ça donnait plein d'idées, quoi. C'était vraiment super.
Puis, comme le disait donc Charlotte Marchandis, c'est un combat qui touche ensemble. Toutes les classes, en fait. Enfin, et c'est là qui... Enfin, tout est relatif, après. Hein, on peut en discuter. Mais on sent que ça mobilise toutes sortes de personnes. Et c'est ça qui est beau. Et que voir que ça réunit les gens, quoi.
Et puis, on peut faire de très belles rencontres. C'est comme ça qu'on a rencontré Mathieu Thorier, qui nous a gentiment ouvert la porte pour la petite interview. Du coup, voilà, les marches pour le climat, ce n'est pas simplement pour marcher pour moi. C'est aussi un lieu de rencontre où... On milite un petit peu à notre façon et on construit un peu notre idéologie avec les gens qu'on rencontre, et on peut trouver d'autres moyens d'agir qui peuvent plus nous parler. Du coup, voilà, les initiatives comme ça, c'est assez chouette, et à Rennes, ça marche plutôt bien.
Oui, tout à fait. À Paris, il y avait notamment un stand avec plein d'associations, plein d'alternatives. iBoycott avait un stand là-bas, le collectif citoyen aussi. Et du coup, sur la journée, je pense qu'on a sensibilisé des centaines de personnes qui sont venues nous poser des questions.
Mais c'est ça, en fait, il ne faut pas minimiser non plus l'action locale, puisque finalement, comme justement a dit Mathieu Thorier, pour les panneaux photovoltaïques qui sont installés dans les écoles, bah, ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, ça revient très vite au final au niveau national. Hein. Il suffit que ça prenne, ça s'épande et puis on a des petites graines qui poussent.
Du coup, on parle d'iBoycott depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous présenter, Samuel, ce que c'est iBoycott et ce qu'ils font ?
Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc, l'association dont Morgane est bénévole, qui s'appelle iBoycott, et pas de n'importe quelle manière, je vais la présenter à l'américaine. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme à utiliser, mais je trouvais ça disruptif de présenter ça comme ça, alors forcément, ça m'a donné envie. Donc, iBoycott, c'est 8 lettres. On va donc s'appuyer sur ces 8 lettres pour étudier l'organisation, les activités et les enjeux de l'association. Je voudrais un I pour idée et information. En effet, iBoycott, c'est une idée qui sort tout droit d'un duo de cerveaux frères, ceux de Levent et Bulent Akar, ou Assar, je ne sais pas, Akar, pardon. Akar. En 2015, l'idée est de créer une plateforme participative suite au constat des nombreux scandales éthiques au sein de différentes entreprises et du manque de transparence de celles-ci, qui ne peuvent être combattus uniquement à l'aide de pétitions qui n'inquiètent pas, à vrai dire, les entreprises. La plateforme iBoycott.org place les individus au centre du processus en leur permettant de participer grâce à leurs idées, puis de lancer des campagnes de boycott. En somme, devenir les acteurs des changements qu'ils souhaitent pour la société générale. Aujourd'hui, ces 6 campagnes portées, comme on a pu le dire, devant les entreprises et qui sont une réussite, et actuellement une trentaine de campagnes en attente de réponse des entreprises. Donc, I pour information, car la chasse à l'information, c'est notamment par les lanceurs d'alerte, c'est ce qui permet de révéler les mauvaises pratiques des entreprises et par la suite de mobiliser les citoyens pour le boycott. I pour information, car iBoycott, c'est aussi un moyen de s'informer et de se questionner sur nos choix de consommation. Je voudrais un B pour boycott, il ne faut pas que je me trompe. Donc iBoycott, c'est aussi la proposition d'une cohérence dans la consommation. S'il y a certains produits qu'on boycotte, alors il existe aussi des produits éthiques, socialement et au niveau environnemental, qu'il faut encourager, via leur consommation. Les citoyens peuvent alors proposer une liste de ces produits pour encourager les entreprises rentrant dans cette logique et pour finalement, pourquoi pas, les aider. Je voudrais un O pour organisation. Le fonctionnement de l'activité d'iBoycott s'organise en 6 étapes. Étape 1, le lancement. Donc, vous êtes témoin d'un scandale économique et vous voulez communiquer autour pour créer une mobilisation citoyenne de boycott de l'entreprise. Vous lancez donc une campagne via la plateforme iBoycott. Étape 2, description de la campagne. La description définira sa portée et son impact. Elle doit être rédigée de manière responsable, bienveillante et objective. Étape 3, incubation. Votre campagne n'est pas tout de suite publiée. Elle sera en période d'incubation composée de 3 étapes. Premièrement, la consolidation. Donc elle sera soumise au vote et à la critique de la communauté d'iBoycott pendant 10 jours. L'objectif est de consolider la campagne. Donc, deuxièmement, modification. L'auteur prend en compte minimum 15 avis et pousse sa campagne modifiée à l'étape 3. Donc, troisièmement, sélection. La campagne doit obtenir 1000 boycottants en un mois pour qu'elle soit publiée. Quatrième étape, diffuser votre campagne. C'est le moment d'utiliser la viralité d'Internet et des réseaux sociaux. Le boycott est un pouvoir qui s'utilise de manière individuelle dans une dynamique collective. Un outil parfait dans l'ère du numérique. Étape 5, réponse de l'entreprise. Une fois que le seuil de boycottant est atteint, l'entreprise est informée. Elle peut alors rédiger une réponse qui sera communiquée à l'ensemble des boycottants. Étape 6, la décision des boycottants. iBoycott relayera la réponse à l'ensemble des boycottants qui pourront voter l'arrêt du boycott ou pas. Si la majorité des boycottants casse leur boycott, alors la campagne est clôturée. Sinon, elle est maintenue et l'entreprise pourra formuler une autre réponse plus convaincante. La démocratie est donc respectée. Je voudrais un Y pour... J'ai beau avoir étudié le long en large et lu une bonne partie de la documentation autour d'iBoycott, je n'ai pas trouvé de mot Y exploitable. Je suis navré.
Youpi.
Youpi, ouais, c'est un très bon mot. Bravo. Je voudrais un C. C pour critique. iBoycott, c'est aussi un lieu de débat critique entre les boycottants pour dialoguer et déterminer la pertinence des potentielles campagnes de boycott. C'est donc un lieu d'échange d'idées et d'arguments qui permet de stimuler l'esprit critique des boycottants. Je voudrais un O pour ouverture. iBoycott s'ouvre aussi à la rencontre physique entre les boycottants pour créer des groupes de partage et de liens sociaux, mais aussi à la formation et aux ateliers lors de divers événements comme les salons, les conférences. Donc à bord de leur petit navire, iBoycott s'ouvre et part communiquer et mobiliser autour de la question du boycott. Je voudrais un double T thé pour tartine, tartatin, taboulé, tagliatelle ou encore tagine. Ouais, je suis désolé, c'est l'heure de dîner, j'arrive plus à réfléchir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai dissimulé au total 4 entreprises boycottées par iBoycott dans cette chronique. Arriverez-vous à les retrouver? Je vous laisse chercher en réécoutant le podcast sur le site de CELAB. Eh ouais, moi aussi je m'approprie les mécanismes du marketing et de la pub, je commence à me faire peur.
On vous laisse réfléchir pendant la musique.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
Produits de notre quotidien cachent parfois des scandales humains, environnementaux ou économiques. La vision à court terme des entreprises influence trop souvent, par le biais des lobbies, les décisions politiques au détriment du bien commun. Qu'il s'agisse de l'exploitation d'enfants, d'optimisation fiscale ou de maltraitance animale, savez-vous quels sont les produits concernés et par quels scandales ? Avez-vous le sentiment de ne rien pouvoir faire contre ces injustices ? Pourtant, nous sommes les acteurs principaux de cette société de consommation. Nous, consommateurs. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Devenons consommateurs et utilisons ensemble notre pouvoir, celui d'acheter un produit ou pas. Oui, le boycott. Le boycott bienveillant.
L'émission Radioactive.
De retour sur le plateau de Radioactive, on avait choisi une autre musique qui s'appelait Zobi les Lobby, mais apparemment elle n'est pas passée. Je pense que Ilyes ne voulait pas heurter notre auditoire qui parlait arabe.
Pour une première fois, non. On commence aussi.
Ok. Alors donc voilà, c'était notre musique backup. Philippe, Catherine, tout le monde la connaissait sur le plateau, c'était joyeux. Excuse-moi Samuel.
Ouais, excuse-moi, t'es coupé. Du coup, je voulais juste préciser que donc en virgule, on a entendu la vidéo de présentation d'iBoycott qu'on peut trouver sur le site d'iBoycott, qui est un site qui est très bien fait parce que je m'en suis beaucoup inspiré pour faire ma chronique, et donc voilà, je voulais les remercier aussi.
Et n'hésitez pas à y aller.
Voilà, n'hésitez pas à y aller. Très bien fait comme site.
Bah justement, on peut enchaîner là-dessus. Si t'as des questions à poser sur iBoycott, comment on y va, etc.
Ouais. Alors j'avais plusieurs questions à te poser, Morgane, au sujet de ton expérience avec iBoycott. Comment tu as pu connaître iBoycott ?
Bah, moi, en 2015, je cherchais un peu des pratiques de participation citoyenne. Et du coup, en 2016 plutôt, j'étais en service civique dans l'économie sociale et solidaire. Et je travaillais un petit peu là-dessus au sein de mon asso. Et du coup, j'ai entendu parler de cette plateforme. Et ensuite, j'ai rencontré cet été deux membres de l'association en service civique au festival Émergissé, mouvement de rassemblement pour la jeunesse chrétienne. Oui, oui, ça existe. Et du coup, j'ai décidé de m'investir et j'ai participé notamment au lancement de l'application, là, dernièrement, à la marche pour le climat. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok. On a constaté que iBoycott fonctionnait sur un système participatif. L'enjeu est donc de mobiliser et de faire connaître la plateforme pour qu'elle gagne en légitimité. Donc comment iBoycott communique auprès des populations pour créer un véritable engouement citoyen ?
Alors comme tu l'as vu sur le site, ça communique surtout sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Et après, il y a aussi une alliance de social héros. C'est en fait plusieurs associations, des youtubeurs, des personnages publics qui élisent une fois par mois une campagne qui va être particulièrement relayée. Mais l'objectif, c'est vraiment que ce soit les citoyens, les signataires qui se réapproprient cet outil et qui le relaient autour d'eux. Sur les pages Facebook de la Marche pour le Climat, les gens ont publié en masse la sortie de l'application. Et en fait, la communication, elle se fait naturellement par les citoyens mobilisés.
Ouais, c'est aussi une démarche de bouche à oreille, j'imagine.
C'est ça. Ouais. En fait, l'asso, c'est majoritairement des bénévoles. Et du coup, ils font déjà un travail assez démentiel pour faire tourner la plateforme et l'application. Et du coup, le but, c'est vraiment que ce soit réapproprié par les consommateurs.
Ok. D'après toi, quelles sont les difficultés rencontrées par des mouvements comme iBoycott pour émerger ? Est-ce qu'il y a des résistances des parties prenantes ou des choses comme ça ?
Qu'est-ce que tu entends par partie prenante ?
La partie prenante, j'entends, je sais pas, pourquoi pas des contre-lobbies, tu vois ? Des gens qui essayent de vous mettre dans l'ombre ou alors vous n'êtes peut-être pas particulièrement soutenu par les pouvoirs publics, je sais pas.
Je pense que le mouvement n'est pas encore assez connu pour qu'il y ait des contre-lobbies qui s'y attaquent. Après, c'est assez compliqué le boycott en France parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne au niveau légal et qui nous disent « mais le boycott, c'est interdit en France ». C'est plus complexe que ça, c'est seulement le boycott pour appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion qui est interdit en France. Et sinon, il n'y a pas de soutien par les pouvoirs publics puisque c'est une association qui est reconnue d'intérêt général mais qui est entièrement financée par les donations. Les partenaires sont seulement associatifs. Et après, la principale difficulté, c'est de mobiliser et surtout de réussir à sortir de sa bulle de consommateurs qui sont déjà sensibilisés à une pratique de consommation responsable et de sensibiliser au grand public.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que vous essayez de faire via des stands, par exemple, lors des événements. Quoi.
Les interventions dans les écoles. Parfois, ils vont aussi interpeller les gens devant les grandes enseignes quand ils sortent de leurs courses pour leur parler de leurs pratiques de consommation, essayer de les sensibiliser, leur dire « vous avez acheté ça, est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a derrière ?»
Ok. D'après toi, qu'est-ce qui reste à construire pour que les personnes s'engagent plus dans une démarche de boycott ? Est-ce que la clé, c'est l'accès à la formation, du coup ?
Ouais, je pense que c'est vraiment ça, parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas que quand ils achètent, par exemple, du jus de fruits innocent, ça appartient à Coca-Cola. Et l'application permet justement, en scannant les produits, de se rendre compte que ça appartient à une énorme multinationale, qu'il y a une campagne derrière, qu'il y a des scandales en cours, et cette application, elle est assez ludique.
Ok, d'accord. Comment vous avez trouvé, ça on y a un peu répondu, comment toucher un public qui n'est pas forcément sensibilisé à cette question-là, on y a déjà répondu. Hein. Donc ça, c'est par les différentes démarches. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, corriger par rapport à ce qui a été dit dans la critique sur iBoycott ?
Je pense que tu as été très complet, j'ai bien aimé ta manière de présenter les choses. Et par l'application dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est sortie sur Android, il y a déjà eu 50 000 téléchargements en un mois, donc c'est assez impressionnant. Elle n'est pas encore sortie sur l'Apple Store, c'est pas une punition contre les gens qui ont Apple, c'est juste que ça prend plus de temps. Comme je l'ai dit, derrière, c'est des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour que l'application puisse sortir sur l'Apple Store. Et après, il y a aussi un manifeste qui a été écrit par l'un des cofondateurs, l'Event, que vous pouvez acheter. C'est aussi une manière de soutenir financièrement l'association. C'est un manifeste sur le boycott bienveillant et qui est assez instructif.
Okay.
Et elle s'appelle comment, l'application ?
BuyerNot.
D'accord. Et elle consiste en quoi exactement ?
Alors du coup, c'est un peu le même principe que Yuka. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, en fait, on scanne son produit. Alors au niveau de l'impact nutritionnel, on a exactement les mêmes informations puisqu'ils utilisent la même base de données qui est celle de Open Food Fact. Mais en plus, vous avez l'impact sociétal et du coup, vous pouvez voir si votre produit appartient à une multinationale et s'il y a une campagne de boycott en cours. Vous pouvez lire la campagne, la rejoindre, en parler autour de vous. Et du coup, c'est un peu un complément par rapport à toutes ces applications qui existent déjà sur l'impact nutritionnel des produits.
Et si on veut joindre iBoycott, si on habite à Rennes, par exemple ?
Alors, il y a une quinzaine d'antennes à iBoycott. Il y a un mail qu'on peut obtenir sur le site pour joindre, pour joindre les antennes. À Rennes, l'antenne n'est pas vraiment active en ce moment, mais si vous êtes motivé, si vous voulez la joindre, n'hésitez pas à contacter l'association et puis on pourrait essayer de monter quelque chose ensemble.
Il y a peut-être une page Facebook, non ?
Ouais, il y a aussi une page Facebook.
D'accord.
On mettra tout ça en lien dans le podcast, comme d'hab.
Ok. Bah, je pense qu'on va enchaîner sur une autre chronique de Marie sur l'étiquetage nutritionnel.
Alors, aujourd'hui, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, ce tour de magie manié avec talent par les grands prestidigitateurs lobbyistes. Vous faire croire qu'ils s'intéressent à vous quand ce qu'ils veulent vraiment, c'est ce qu'il y a dans votre porte-monnaie. Beaucoup d'enfumage, de discours qui partent tous azimuts pour vous mettre la tête à l'envers et pendant ce temps-là, l'argent, lui, continue de rentrer dans les poches. Pour vous donner un exemple concret, on va aujourd'hui parler de la campagne des lobbies agroalimentaires contre la mise en place d'un système d'étiquetage nutritionnel connu sous le nom de Nutri-Score. Mis en place avec l'aval du Haut Conseil de la Santé publique et d'associations de consommateurs, ce système a pour but de faciliter la lecture et la composition des produits. Pour cela, ils ont imaginé un système combinant 5 couleurs allant du rouge au vert auquel on a associé une lettre de A à E. Et attention, surprise, c'est super simple à comprendre. Et oui, Jamy, vert, tout va bien, le produit est safe. Rouge, hop 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 Frédéric, tu devrais y aller mollo sur la pizza, c'est pas très bon pour ton cholestérol. C'est simple et surtout, ça permet aux consommateurs de distinguer la qualité nutritionnelle d'un même type de produit proposé par différentes marques, les obligeant à s'adapter pour proposer une qualité nutritionnelle qui les différencie positivement de leurs concurrents. Mais alors, pourquoi sur les paquets de nos chères pâtes à tartiner, de nos céréales, de nos chips et autres réjouissances alimentaires, on ne trouve pas ces petits logos de couleur censés nous aider à savoir ce qu'ils contiennent réellement ? Car je sais pas vous, mais moi, je vois toujours rien sur les paquets. Si, en tout petit, derrière ou même dessous, avec des tableaux archi compliqués où on ne comprend pas grand-chose. C'est là que la magie des lobbies opère, et pour cause. Ils avaient déjà œuvré sur le plan européen, puisque le 16 juin 2010, le Parlement avait voté la nouvelle réglementation sur l'information des consommateurs. Celle-ci n'oblige cependant pas à rendre visibles les taux de matière grasse, de sucre ou de sel sur le devant de l'emballage, et les États membres ne peuvent pas obliger les industriels à apposer ce genre d'indications sur le plan national. Les lobbies avaient dépensé plus d'un milliard d'euros pour empêcher la mise en place d'un système d'étiquetage similaire à notre Nutri-Score. À la place, ils ont réussi à nous la mettre à l'envers avec leur fameux repère nutritionnel journalier basé sur la quantité de sucre totaux et non sur les sucres ajoutés, ce qui vient brouiller le consommateur sur la quantité de sucre que les industriels ajoutent réellement dans nos aliments. Maintenant, je vais vous dévoiler le truc du magicien ou tuto pour devenir le roi du lobby, la reine de l'embrouille. Tout d'abord, il faut noyer les consommateurs, les journalistes et les politiques sous une marée de données contradictoires pour qu'on ne sache plus où donner de la tête. Les lobbies rétribuent leurs propres spécialistes pour établir des rapports et décrédibiliser les recherches scientifiques qui leur font du tort. Leur credo, c'est la politique du doute pour retarder, voire empêcher, toute décision politique. En France, on a l'ANIA, ou Association Nationale des Industries Agroalimentaires, qui représente les intérêts de multinationales telles que Nestlé, Kellogg's, Mars, Coca-Cola ou encore Danone. L'ANIA est le lobby qui s'est opposé de manière virulente à la mise en place du Nutri-Score et dont l'argument principal était que ce code couleur nuisait à l'image d'une gastronomie dite « à la française » et qu'il était stigmatisant pour des produits bien gras, mais tellement de chez nous. En gros, le Nutri-Score, ça met en péril la belle image de nos rillettes du terroir. Mais pour contrer le danger du code couleur, les lobbies ont plus d'un tour dans leur sac. Ils invitent les politiques à venir déguster de la charcute et boire une coupe de champagne à l'occasion d'une soirée organisée par la communauté du bien manger, dont fait partie le président de la Fédération française des industriels charcutiers. Ou encore, ils proposent aux parlementaires des amendements tout faits pour leur économiser l'effort de penser par eux-mêmes. Vous vous rappelez les modèles de lettres de motivation qu'on retrouve gratos sur le net et qu'il suffit de recopier habilement en faisant croire que ça vient de nous ? Eh bien, c'est le même principe. En 2016, lorsque Marisol Touraine, la ministre de la Santé de l'époque, voulait faire passer la loi pour apposer le logo Nutri-Score sur les produits, elle a reçu une ribambelle d'amendements qui pompaient celui proposé par le lobby. Mauvais élève, ces parlementaires. Dernier tour de passe-passe, la mise en place d'un test pour mettre à l'épreuve différents types d'étiquetage, leur degré de pertinence en conditions réelles d'achat. En plus de coûter très cher, ce test a mis beaucoup de temps à se mettre en place avant de donner des résultats exploitables. Parmi les scientifiques en charge de les tester, certains ont avoué avoir un lien d'intérêt avec les industries agroalimentaires. Et dans le comité de pilotage du projet, on retrouve qui ? Le président du conseil d'administration du Front français pour l'alimentaire et la santé, financé à 100% par les industries agroalimentaires. Coïncidence ?
Le Nutri-Score est pourtant sorti vainqueur de ce tel test quelque peu biaisé. Et depuis le 31 octobre 2017, le logo a été autorisé, bien qu'il ne soit toujours pas obligatoire. Seules quelques marques comme Auchan, Leclerc, Intermarché, Fleury Michon, McCain ou encore Danone ont accepté d'utiliser le code couleur. Bref, un petit pas pour la planète, un grand fuck par nos amis les lobbies.
Merci Marie pour ce décryptage de cette déconstruction sur le Nutri-Score, c'était très clair. Des réactions sur le plateau? On peut peut-être parler des lobbies en soi, de leur technique en soi. Je ne sais pas si Morgane, tu sais un peu comment... C'est une bonne ouverture pour parler un peu comment ça fonctionne, comment ils influencent les politiques et les députés, toutes les personnes politiques au Parlement européen ou même en France.
Moi, j'avais vu un reportage justement sur les lobbies à l'Union européenne et c'est assez impressionnant en fait. Je ne sais plus quelle émission a fait ça, mais en gros, ils avaient créé un peu une carte avec... justement, c'était un industriel qui avait répertorié les députés du Parlement européen en disant alors lui il s'intéresse à tel sujet mais à côté de ça il fait de la moto et en fait ils essayaient vraiment d'aller leur parler de leur passion et puis après de leur glisser comme tu disais des petits amendements comme ça sous le coude et oui c'est assez hallucinant. Après on a souvent une mauvaise image des lobbies mais il y a aussi des lobbies d'ONG, il y a plein d'associations qui dépensent elles aussi des centaines
Greenpeace
de milliers d'euros.
Greenpeace est un lobby.
Greenpeace est un lobby et on l'oublie trop souvent Et après, les lobbies, ça peut aussi être un groupe d'experts qui apporte des informations sur un sujet. Alors que c'est sûr que quand ça vient des industriels, on a un petit peu des questionnements à se poser sur les informations apportées. Et je pense que du coup, avoir des lobbies industriels, ça disparaîtra pas. Mais tant qu'il y a aussi des associations, voire des citoyens qui se mettent à faire du lobbyisme, bah, du coup, on peut peut-être contrebalancer un petit peu le mouvement.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment un poids par rapport aux lobbies industriels? Est-ce que le Greenpeace a vraiment le même poids? Est-ce qu'il a le même financement et la même... Ouais, les mêmes connexions aussi avec les personnes qui ont le pouvoir.
Non, c'est sûr qu'en termes de financement, les lobbies industriels, c'est des millions d'euros. Mais là, il y a quand même une décision qui vient d'être votée en Europe pour interdire certains produits en plastique. Et il y a un énorme lobby du plastique qui s'appelle Plastic Europe, qui, je pense, là, doit être en train de paniquer et de chercher un moyen de réagir. Mais le vote est passé. Donc je pense que derrière, il y avait aussi des lobbies d'associations qui ont défendu cette proposition.
Il y a peut-être aussi un problème avec la politique actuelle en soi. Si les politiciens, les personnes politiques sont aussi manipulables, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la démocratie, que ça soit en Europe ou en France. C'est peut-être ça qu'il faut changer aussi. Je sais pas. C'est une question ouverte.
Ah, c'est évident. Moi, je pense que aujourd'hui, la carte bancaire, c'est un outil beaucoup plus puissant que le bulletin de vote. Et le mandat unique, je crois que Mathieu Thorier en parlait.
Charlotte
Marchandise en parlait. Ça me paraît être la solution la plus évidente pour que les politiciens se focusent sur leur travail de politicien pendant leur mandat et ne cherchent pas la réélection.
Ok.
Non, et puis par contre, il y a vraiment de vieilles habitudes. Ça, c'est Mathieu Thorier qui en parle dans le reste de son interview, mais vraiment, il y a de vieilles habitudes. Enfin, il y a une sorte de laisser-aller dans le... Bon, on a l'habitude de faire comme ça, donc on fait comme ça parce qu'on ne sait pas faire autrement, on n'a pas envie de savoir comment faire autrement. Il y a vraiment
Mais justement, il faudrait faire quoi pour changer ça, pour qu'il y ait un réveil des consciences, quoi? Parce que I Boycott, niveau communication, qu'est-ce que vous avez comme idée?
Bah, I Boycott, il y a quand même 100 000 personnes qui sont actives sur la plateforme, de plus en plus de campagnes lancées. Et c'est une vaste question.
Vous ne faites pas des événements de masse
Participer à des événements de masse comme la marche pour le climat, c'est déjà une étape. Et après, en fait, je pense qu'il y a un manque de moyens humains et financiers pour pouvoir organiser des mouvements de masse. Mais je pense qu'on pourrait imaginer justement des interpellations devant les grandes enseignes ou un peu comme le mouvement Stop Plastique, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais qui en gros va dans les supermarchés et puis... Et puis enlève tous les emballages, et du coup, après il faut que ce soit repris médiatiquement pour que ça prenne vraiment de l'ampleur, et aujourd'hui les médias se fichent de ces sujets-là.
Ouais, et puis ça touche pas forcément tout le monde, enfin je pense que ce genre d'action ça touche des gens qui sont déjà sensibilisés, et je pense qu'aujourd'hui, enfin moi je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui n'ont aucune conscience du potentiel pouvoir d'action qu'elles ont, enfin... Juste mon petit frère, je parlais avec lui du Nutella, enfin, c'est tout con, mais je lui disais, mais tu sais ce qu'il y a derrière le Nutella, je commence à lui expliquer, et il me dit, mais c'est parce que les supermarchés, ils continuent à en vendre, s'ils arrêtaient d'en vendre, eh ben, on n'en achèterait plus. Et en fait, dans la tête des gens, la plupart des gens, c'est inversé, en fait. Ils ont l'impression que parce qu'on leur propose, c'est pas à eux de faire l'effort de changer les choses. Et ouais, il y a vraiment un inversement de la logique, en fait. Et je trouve que, par exemple, Yuka et même iBoycott, c'est Bayernut. Juste sur le plan nutritionnel, avec le côté ludique, moi, je sais que dans mon entourage, il y a plein de gens qui s'y mettent. Et je trouve que ça marche, quoi. Moi, ça me fait super plaisir, parce que même des gens qui ne sont pas forcément conscientisés ou sensibilisés par rapport à ces questions-là... ma petite cousine de 7 ans, elle scanne tous les produits dans les supermarchés et genre, ça la fait trop kiffer. Et après, on en parle et ça ne va pas empêcher de manger des merdes de temps en temps. Mais au moins, ça prend une place, quoi. Enfin, moi, je trouve que...
Ouais, je suis d'accord, c'est un outil hyper ludique pour amener le débat. Moi, je sais que justement, je saoule un peu souvent mes potes avec ces trucs-là. Arrête d'acheter du Nutella, arrête d'acheter du Coca. Ils ne comprennent pas, alors que quand tu leur sors... du coup, l'application, c'est un moyen ludique de leur faire scanner le produit. Et c'est sûr que tu ne l'utilises pas quand tu fais tes courses, sinon tu mets 4 heures et tu n'achètes plus rien. Et quand tu es déjà sensibilisé, de toute façon, tu n'achètes pas de produits transformés et tu vas au minimum dans les supermarchés. Mais c'est un bon outil pour ouvrir le débat sur ces questions-là.
Puis ouais, je voulais juste simplement prendre ce qu'avait dit Sophie par rapport à l'interview qu'on avait faite. Il y a un instinct grégaire de la part de nos politiques. On avait posé la question à Mathieu Thory et à Charlotte Marchandise. Finalement, est-ce que les politiques ne sont pas climato-sceptiques pour la majorité? Et finalement, ils ont conscience du dérèglement climatique, ils ont conscience de ces enjeux-là. Sauf qu'au final, c'est de la routine, ça bloque. On a toujours fait comme ça. Puis finalement, l'humanité a toujours trouvé plus ou moins une solution. Du coup, ouais, c'est pour moi l'un des moyens les plus efficaces pour agir. C'est déjà une prise de masse citoyenne de la part du plus grand nombre. Sinon, nos politiques, nos représentants ne se bougeront jamais le cul au final. Du coup, là, des applications comme iBoycott, il devrait y en avoir pour toutes les choses, pour des vêtements, pour des voitures, je ne sais pas.
Il y en a
pas,
pour les cosmétiques.
Voilà, c'est déjà ça. Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore cherché, mais... Voilà des petites initiatives comme ça qui nous permettent de se bouger petit à petit à notre échelle. En les accumulant, ça fait un tout. Et ce tout, c'est ce qui va faire, j'espère, changer les choses au final.
Donc télécharger l'application Bayernut. Ça s'écrit
BUYORNOT. Et il y en a une qui a le même nom, mais il faut reconnaître le petit logo vert avec un petit panier dedans.
D'accord, parfait. Je crois qu'on a tout dit. Allez sur le site iBoycott.org et téléchargez l'application. Je pense qu'on peut passer à notre revue de presse. On va faire une petite revue de presse pour expliquer les prochains événements.
Moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. C'était une très bonne émission et j'espère à très vite.
Merci à toi.
Salut Morgane.
Ilias, je te laisse commencer au niveau de la revue de presse.
Merci Samuel. Alors du coup, la revue de presse, il y a eu beaucoup d'événements cette semaine. On a vu surtout l'affaire géopolitique qui concerne le diplomate saoudien Khashoggi. Son arrestation et son meurtre finalement au plein consulat en Turquie qui a fait éjaillir tout le monde au niveau à la scène internationale. On a vu le Québec, le Canada plutôt, l'Allemagne d'Angela Merkel qui a condamné cette action, et puis les États-Unis qui finalement refusent toujours de rompre des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, qui devant les faits se retrouve aujourd'hui avec un meurtre à la scène internationale, mais avec ce sentiment d'impunité, car il y a des intérêts derrière, car les États-Unis sont les principaux vendeurs d'armes pour l'Arabie Saoudite. Du coup, voilà, petite actualité qui chagrine un petit peu, mais qui peut espérer être une nouvelle conscience pour vraiment s'assurer, nous, la France et les autres pays qui vendent des armes, qui ont des contrats avec ce genre de pays qui représentent pas qui n'ont pas le même système de valeurs, se dire comme iBoycott ou non, finalement nous aussi on a des principes. Si vous respectez pas ces principes des droits humains, les droits de l'homme, finalement on arrête de commercer avec vous tant que vous ne changez pas, tant que vous ne respectez pas des chartes, quoi. Samuel.
Ouais. Alors moi je passe notamment du coq à l'âne parce que je vais vous parler santé et alimentation. Très rapidement, j'ai sélectionné deux articles sortis par Le Monde cette semaine. Donc le premier, il nous donne les résultats d'une étude, qui nous assure donc que manger bio réduirait de 25% les risques d'avoir un cancer. Donc je trouve ça totalement incroyable comme donnée. Ça, c'est totalement effrayant. Et c'est dire tout ce qu'on peut avaler comme merde. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais voilà. Et donc, je continue.
Je t'en prie, Samuel.
D'accord. Donc, je continue sur le deuxième article du Monde, qui est totalement en lien avec le premier, parce qu'il justifie... Il argumente sur le premier, parce qu'il confirme, on va dire. Il confirme le premier, puisqu'il dit qu'on a retrouvé des particules de plastique dans les excréments humains. Donc, on mange bien de la merde, c'est confirmé, et c'est en lien. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me donne bien envie de préciser mon projet de potager bio.
Pour finir, je vais finir sur une good news. Ça se passe au Brésil, et pour la première fois, c'est une femme indigène qui a été élue au Parlement. Du coup, ça chamboule un peu toute la politique au Brésil, vu que elle a dû choisir un nouveau nom et prénom, elle a dû faire les procédures civiles, tout ça. Et du coup, c'est un grand plus, vu que pour la première fois, ces peuples opprimés ont une voix au Parlement. Et ça nous fait plaisir de voir que ça bouge et qu'il y a encore d'espoir un peu.
Pardon, il ne faut pas oublier qu'au Brésil, ils vont élire un fasciste à leur gouvernement, quand même.
Voilà, c'est pas trop cool.
On arrive au terme de cette émission. Merci à notre invité Morgane, qui nous a présenté l'association iBoycott. Merci à toute l'équipe. Merci à Zaza d'être venue en renfort pour la technique. On n'a pas encore défini le thème de notre prochaine émission. On le partagera sur les réseaux sociaux. On vous tient au courant. Vous pouvez réécouter le podcast de cette émission dès ce soir sur la page internet de la radio Scilab, scilab.fr. Voilà, c'était l'émission Radioactive, c'était notre première émission. On se dit à dans 2 semaines ou 3 semaines, on n'est pas encore sûr non plus, on partagera sur les réseaux sociaux. Et on laisse la place à l'émission suivante, Putiton. Bonne soirée.